Pape Pie X, lettre encyclique ad Cherbonimis du 15 avril 1905 sur l'enseignement de la doctrine chrétienne. À nos vénérables frères les patriarches, primats, archevêques, évêques et autres ordinaires de tout lieu en paix et communion avec le siège apostolique, Pape Pie X. Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. C'est dans un temps extrêmement dur et difficile qu'un dessein secret de Dieu a appelé notre petitesse à exercer la charge de suprême pasteur sur tout le troupeau du Christ. L'homme ennemi rôde depuis longtemps autour de la bergerie et l'assiège d'embûches si perfidement calculées qu'on croit voir réaliser maintenant plus que jamais la prédiction de l'apôtre aux anciens de l'église d'Éphèse. Je sais que parmi vous pénétreront des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Actes 20, 29. De cet amoindrissement des choses religieuses, tous ceux qui ont encore le zèle et la gloire divine recherchent les causes et les raisons. Les uns en donnent une, les autres une autre, et chacun selon son opinion propose des moyens différents pour défendre ou rétablir le règne de Dieu sur terre. Quant à nous, vénérables frères, sans désapprouver le reste, nous croyons qu'il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et leur faiblesse, avec les maux si graves qui en résultent, principalement à l'ignorance des choses divines. C'est exactement ce que Dieu disait par la bouche du prophète Osée. Il n'y a plus de science de Dieu sur la terre. La calomnie, le mensonge, l'homicide, le vol et l'adultère débordent, et le sang suit le sang. Voilà pourquoi la terre gémira et tous ceux qui l'habitent seront affaiblis. Osée 4.1. Et en effet, qu'il y ait actuellement dans le peuple chrétien bon nombre d'hommes absolument ignorants des choses qu'on doit connaître pour son salut éternel, c'est une plainte générale et malheureusement trop fondée. Et quand nous parlons du peuple chrétien, nous n'entendons pas seulement le petit peuple ou les gens de la classe inférieure, qui souvent trouvent encore une sorte d'excuse à leur ignorance, parce qu'ils dépendent de maîtres durs et ne sont guère libres de songer à eux-mêmes et à leurs intérêts. Il s'agit aussi et surtout de ceux qui, ne manquant ni de talent ni de culture, possède abondamment la science profane, mais qui, pour ceux qui regardent la religion, vivent absolument à l'aventure et sans réflexion. On peut à peine dire de quelles épaisses ténèbres ils sont enveloppés, et chose plus affligeante, ils y demeurent tranquillement plongés. Dieu, le souverain auteur et maître de toutes choses, la sagesse de la foi chrétienne, il n'y pense presque jamais. L'incarnation du Verbe de Dieu, la rédemption du genre humain accomplie par lui, ils n'en savent rien. Rien non plus de la grâce, qui est le grand moyen d'acquérir les biens éternels. Rien de l'auguste sacrifice, ni des sacrements par lesquels nous obtenons et gardons en nous cette grâce. Quant au péché, on ne tient nul compte de ce qu'il renferme de malice ou de honte. Par suite, nul souci de l'éviter, ou de s'en débarrasser, et ainsi l'on arrive au dernier jour. Alors, quand il ne reste à l'agonisant que quelques instants qui devraient être consacrés à des actes d'amour pour Dieu, le prêtre, afin de ne pas laisser perdre tout espoir de salut, est contraint de les employer à un enseignement sommaire de la religion. Trop heureux encore si le moribond n'est pas tellement dominé par une coupable ignorance, comme il arrive trop souvent, qu'il juge inutile toute intervention du prêtre, et croit pouvoir, le cœur léger, sans avoir rien fait pour apaiser Dieu, entrer dans le redoutable chemin de l'éternité. Ainsi, notre prédécesseur Benoît XIV a eu raison d'écrire : Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés aux supplices éternels doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi, qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. Les choses étant ainsi, comment s'étonner, vénérable frère, si l'on voit régner en ce moment et se développer de jour en jour, non point chez les nations barbares, mais parmi les peuples qui portent le nom de chrétiens, une telle corruption de mœurs et une telle dépravation des habitudes. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, disait « Que la fornication et tout genre d'impureté, ainsi que l'avarice, ne soient même pas nommées parmi vous, comme il convient à des saints, et qu'il n'y ait aussi ni turpitude, ni sot discours. » Éphésiens 5:3. Mais à cette sainteté et à cette pudeur qui réfrènent les passions, il donne pour fondement l'intelligence des choses divines. Prenez donc garde, frères, de marcher avec précaution, non comme des insensés, mais comme des sages. Ne devenez pas des imprévoyants, mais des hommes qui comprennent la volonté de Dieu. Éphésiens 5:15. Et c'est avec grande raison, car la volonté de l'homme garde à peine un reste de cet amour de l'honnête et du juste que Dieu, son Créateur, avait mis en lui et qui l'entraînait en quelque sorte vers le bien, non pas apparent mais réel. Dépravé par la corruption du péché originel, et ne connaissant plus, pour ainsi dire, Dieu son Créateur, elle dirige toutes ses intentions vers l'amour de la vanité et la recherche du mensonge. Cette volonté égarée et aveuglée par les mauvaises passions a donc besoin d'un guide qui lui montre le chemin pour la faire rentrer dans les sentiers de la justice qu'elle a eu le tort d'abandonner. Ce guide, nous n'avons pas à le chercher au dehors, il nous est donné par la nature, c'est notre intelligence. S'il lui manque la vraie lumière, c'est-à-dire la connaissance des choses divines, ce sera l'histoire de l'aveugle conduisant un aveugle, tous deux tombent dans le fossé. Le saint roi David, louant Dieu d'avoir mis la lumière de la vérité dans l'intelligence humaine, disait « La lumière de votre face, ô Seigneur, est empreinte sur nous. » Et l'effet de cette communication de la lumière, il l'indique en ajoutant « Vous m'avez mis la joie dans mon cœur. » Cette joie, qui dilatant notre cœur, nous fait courir dans la voie des préceptes divins. Un peu de réflexion éclaircira ce point. La doctrine chrétienne nous manifeste Dieu et ses infinies perfections bien plus clairement que ne le font les facultés naturelles. Cette doctrine nous oblige à honorer Dieu par la foi, qui vient de l'intelligence, par l'espérance, qui vient de la volonté, par la charité, qui vient du cœur. Et ainsi, elle soumet tout l'homme au souverain Créateur et Maître. De même, la doctrine de Jésus-Christ est la seule qui nous révèle la véritable et haute dignité de l'homme, car elle nous le présente comme le Fils du Père, qui est aux cieux, fait à son image, et destiné à vivre avec lui dans l'éternité bienheureuse. De cette dignité et de sa connaissance, le Christ déduit pour les hommes l'obligation de s'aimer les uns les autres comme des frères, et de vivre ici-bas comme il sied à des enfants de lumière. Non dans les festins et les orgies, non dans la débauche et l'impudicité, non dans les disputes et les rivalités. Romains 13, 13. Il veut aussi que nous jetions dans le sein de Dieu tous nos soucis, parce qu'il a soin de nous. Il nous commande de donner aux pauvres, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de préférer les intérêts éternels de l'âme aux biens passagers de ce monde. Et sans toucher à tous les détails, n'est-ce pas l'enseignement du Christ qui, à l'homme aux prétentions orgueilleuses, conseille et prescrit cet abaissement de soi qui conduit à la véritable gloire? Quiconque s'humiliera sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18:4. La même doctrine nous enseigne la prudence de l'esprit qui nous met en garde contre la prudence de la chair. La justice qui nous fait accorder à chacun son droit, la force qui nous dispose à tout souffrir, le cœur haut pour Dieu et pour l'éternelle béatitude. Enfin, la tempérance qui nous porte à chérir même la pauvreté pour le royaume de Dieu et à nous glorifier jusque dans la croix, sans souci de l'humiliation. Il est donc établi que non seulement notre intelligence emprunte à la doctrine chrétienne la lumière qui lui permet d'acquérir la vérité, mais aussi que notre volonté y puise l'ardeur qui nous élève à Dieu et nous unit à lui par l'exercice de la vertu. Loin de nous toutefois d'en conclure que la perversité du cœur et la corruption des mœurs ne puissent se rencontrer avec la science de la religion. Plût à Dieu que les faits prouvassent moins souvent le contraire. Ce que nous affirmons, c'est que chez les hommes dont l'intelligence est enveloppée des ténèbres d'une épaisse ignorance, il ne saurait subsister de volonté droite ni de mœurs pures. Celui qui marche les yeux ouverts peut sans doute s'écarter du chemin droit et vrai, mais celui qui est frappé de cécité va sûrement au-devant du danger. Ajoutez-y que la corruption des mœurs, là où la lumière de la foi n'est pas totalement éteinte, laisse quelque espoir d'amendement. Mais quand la dépravation des mœurs et la disparition de la foi par suite de l'ignorance se trouvent réunies, il n'y a plus guère de remède et la route est ouverte pour la ruine finale. Puis donc que l'ignorance de la religion cause tant et de si graves dommages et que d'autre part l'instruction religieuse est si nécessaire et si utile, car on attendrait en vain l'accomplissement de ses devoirs chrétiens d'un homme qui les ignore, il faut voir maintenant à qui incombe le soin de préserver les intelligences de cette ignorance fatale et de leur inculquer la science nécessaire. Là-dessus, vénérable frère, le doute n'est pas possible. Cette charge très grave regarde tous les pasteurs des âmes. De par le précepte du Christ, ils sont tenus de connaître et de nourrir les brebis qui leur sont confiés. Or, ici, nourrir, c'est tout d'abord enseigner. Je vous donnerai, ainsi que Dieu le promettait par Jérémie, des pasteurs selon mon cœur, et ils vous nourriront de science et de doctrine. Jérémie 3,15. De là ces paroles de l'apôtre, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser. 1 Corinthiens 1,17. Il veut dire que le premier rôle de ceux qui sont préposés d'une façon quelconque au gouvernement de l'Église est d'apprendre aux fidèles les choses saintes. Nous jugeons superflu de faire l'éloge de cet enseignement et de montrer de quel prix il est devant Dieu. Assurément, la pitié que nous témoignons aux pauvres pour le soulagement de leur détresse reçoit de Dieu de grandes louanges. Mais qui pourrait nier le mérite bien supérieur du zèle et du travail que nous employons à procurer, non pas des avantages passagers au corps, mais des biens éternels aux âmes, en les instruisant et en les exhortant. Non, rien ne saurait être plus désirable, rien plus agréable pour Jésus-Christ, le Sauveur des âmes, qui a dit de lui-même par la bouche d'Isaïe, « Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. » Luc 4,18. Mais il importe ici, vénérable frère, de nous arrêter à une réflexion spéciale et d'y insister. C'est qu'il n'existe pas pour le prêtre, quel qu'il soit, de devoir plus grave ni d'obligation plus étroite. Car qui niera que le prêtre doive joindre la science à la sainteté de vie? Les lèvres du prêtre garderont la science. Malachie 2,7. Et en effet, l'Église l'exige très sévèrement de ceux qui doivent être initiés au sacerdoce. Pourquoi? Parce que le peuple chrétien attend d'eux la connaissance de la loi divine et que Dieu les destine à la distribuer. Ils demanderont à sa bouche la loi parce qu'il est l'ange du Dieu des armées. Même lieu. C'est pour cela que l'évêque, au moment de l'ordination, s'adressant aux candidats du sacerdoce, leur dit « Que votre doctrine soit pour le peuple de Dieu une médecine spirituelle. Que tout soit de prévoyants collaborateurs de notre charge, en sorte que, méditant jour et nuit la loi sainte, ils croient ce qu'ils auront lu et enseignent ce qu'ils croiront. » Pontifical romain. Si ces choses regardent tous les prêtres, que dirons-nous de ceux qui, honorés du titre et du pouvoir de curé, remplissent la charge de directeur des âmes en vertu de leur dignité et d'une sorte de contrat? Ceux-là, dans une certaine mesure, doivent prendre rang parmi les pasteurs et les docteurs que le Christ a établis pour que les fidèles ne soient plus comme des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la malice des hommes, mais que pratiquant la vérité dans la charité, ils croissent en toutes choses dans celui qui est le chef, le Christ. Éphésiens 4, 14-15. C'est pourquoi le Saint Concile de Trente, traitant des pasteurs des âmes, déclare que leur premier et principal devoir est d'instruire le peuple chrétien. Il ordonne donc, au moins les dimanches et les jours de fête solennelle, de parler au peuple sur la religion. Au saint temps de l'Avent et du Carême, ils doivent le faire chaque jour, ou du moins 3 fois par semaine. Ce n'est pas tout. Il ajoute que les curés sont tenus, au moins les dimanches et fêtes, par eux-mêmes ou par d'autres, d'instruire les enfants dans les vérités de la foi et de les former à l'obéissance envers Dieu et leurs parents. Quand il s'agira d'administrer les sacrements, il veut qu'on instruise de leurs vertus ceux qui doivent y participer en employant un langage facile et usuel. Notre prédécesseur Benoît XIV a résumé et précisé dans sa constitution Et si minime toutes ces prescriptions du Saint-Concile. 2 principales obligations ont été imposées par le Concile de Trente aux pasteurs des âmes. L'une, d'adresser au peuple, les jours fériés, des discours sur les choses divines. L'autre, d'apprendre aux enfants et à tous les ignorants les éléments de la loi divine et de la foi. Le sage pontife a raison de distinguer les 2 obligations, celle du discours qui consiste dans l'explication de l'Évangile et celle de l'instruction religieuse. Peut-être, en effet, certains prêtres, désireux de diminuer leur besogne, voudraient se persuader que le prône peut tenir lieu de catéchèse. Il suffit de réfléchir pour voir que c'est une erreur. Le discours qu'on fait sur le Saint-Évangile s'adresse à des auditeurs qui doivent déjà posséder les éléments de la foi. On peut appeler cela le pain qu'on distribue aux adultes. Mais l'enseignement catéchétique est ce lait dont l'apôtre Saint-Pierre dit que les fidèles doivent le désirer sans artifice, comme des enfants nouveau-nés. La tâche du catéchiste consiste à prendre pour sujet une vérité qui se rapporte à la foi ou à la morale chrétienne et à la mettre en lumière sous toutes ses faces. Mais comme le but de l'enseignement doit être la réforme de la vie, le catéchiste comparera ce que Dieu commande de faire et ce que les hommes font dans la réalité. Puis, profitant des exemples qu'il aura su tirer à propos soit des saintes écritures, soit de l'histoire ecclésiastique ou de la vie des saints, il exprimera aux auditeurs et leur montrera, pour ainsi dire du doigt, comment ils ont à régler leur conduite. Il terminera par une exhortation qui puisse leur faire détester et fuir les vices et leur faire suivre le chemin de la vertu. Nous savions bien que cet enseignement de la doctrine chrétienne déplaît à beaucoup, sous prétexte qu'il est médiocrement estimé d'ordinaire et peu fait pour gagner les faveurs du public. Cette appréciation, à notre avis, est celle d'hommes qui prennent pour guide la légèreté plutôt que la vérité. Nous ne refusons pas notre juste approbation aux orateurs sacrés qui, par un zèle sincère pour la gloire de Dieu, s'emploient à venger, à défendre la foi et à louer les saints. Mais leur travail demande un autre travail préalable, celui des catéchistes. Si ce dernier fait défaut, les fondements font défaut, et c'est en vain que travailleront ceux qui bâtissent la demeure. Trop souvent il arrive que des discours très élégants, accueillis par des applaudissements d'un auditoire très nombreux, n'aboutissent qu'à chatouiller les oreilles sans remuer les cœurs. Au contraire, une instruction catéchétique, bien que modeste et simple, sera cette parole que Dieu lui-même exalte par la voix d'Isaïe. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais abreuvent la terre, la fécondant et la font germer, fournissent la semence au semeur et le pain à l'affamé, telle la parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira tout ce que je voulais et produira les fruits pour lesquels je l'ai envoyée. Isaïe 55. Nous croyons qu'il faut en penser autant de ces prêtres qui, pour mettre en lumière les vérités de la religion, composent des ouvrages de grand travail. Ils méritent les plus beaux éloges. Cependant, combien petit le nombre de ceux qui étudient ces volumes et en retirent un fruit proportionné au travail des auteurs et à leurs vœux. L'enseignement de la doctrine chrétienne, s'il est bien donné, n'est jamais sans profit pour les auditeurs. Et pour enflammer le zèle des ministres de Dieu, il sera bon de le répéter encore. Grand est le nombre, et il grandit tous les jours, de ceux qui ignorent tout en fait de religion, ou qui ont de Dieu et de la foi chrétienne une connaissance si insuffisante qu'elle ne les empêche pas, dans le plein jour de la vérité catholique, de vivre à la façon des idolâtres. Combien, hélas, nous ne disons pas d'enfants, mais d'adultes et d'hommes sur le déclin de l'âge, qui ne savent rien des principaux mystères de la foi et qui, entendant nommer le Christ, répondent « Qui est-il pour que je croie en lui ?» Jean 9, 36. De là vient qu'ils ne se font pas un reproche de susciter et d'entretenir des haines, d'établir des contrats les plus injustes, de se livrer à des spéculations malhonnêtes, d'accaparer le bien d'autrui par une lourde usure, et autres méfaits pareils. En outre, ignorant la loi du Christ, qui ne condamne pas seulement les actes honteux, mais défend même d'y penser volontairement et de les désirer, il se peut bien que, pour une raison ou pour une autre, ils se gardent des plaisirs coupables. Mais ils accueilleront, sans le moindre scrupule, les pensées les plus impures, multipliant les iniquités au-delà du nombre de leurs cheveux. Et ces choses se rencontrent, disons-le encore une fois, non pas seulement dans les campagnes ou chez le pauvre peuple, mais aussi et peut-être plus fréquemment chez des hommes d'une classe plus élevée, voire chez ceux que la science gonfle, qui, fort d'une vaine érudition, croient pouvoir se moquer de la religion et blasphèment tout ce qu'ils ignorent. Lettre de Jude. Or, si l'on ne saurait attendre une moisson d'une terre qui n'aurait pas reçu de semences, comment espérer des générations ayant des bonnes mœurs si elles n'ont pas été à temps instruites dans la doctrine chrétienne? De là, nous devons conclure que si la foi s'est alanguie de nos jours au point d'être presque mourante chez beaucoup, c'est que le devoir de l'instruction religieuse est accompli trop négligemment ou complètement omis. Car on aurait tort, pour se donner un semblant d'excuse, de dire que la foi nous est accordée en don gratuit et conférée à chacun dans le saint baptême. Sans doute, nous tous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, nous avons en nous la foi infuse. Mais cette semence divine ne monte pas et ne pousse pas de fortes branches, Marc 4, si elle est abandonnée à elle-même et réduite à n'agir que par une sorte de vertu innée. Il existe aussi dans l'homme, dès qu'il vit, une intelligence. Elle a pourtant besoin de la parole maternelle qui l'éveille en quelque sorte et la met, comme on dit, en action. Il n'arrive pas autrement aux chrétiens, qui, en renaissant dans l'eau et le Saint-Esprit, portent désormais en lui la foi. Mais il faut néanmoins l'enseignement de l'Église pour que cette foi puisse s'alimenter, grandir, fructifier. C'est en ce sens que l'apôtre disait « La foi vient de la prédication entendue, et la prédication se fait par la parole du Christ. » Romains 10. Et pour montrer la nécessité de l'enseignement, il ajoute « Comment entendront-ils sans un prédicateur ?» Si les explications qui précèdent démontrent de quelle importance est l'instruction religieuse du peuple, nous devons veiller avec le plus grand soin à ce que l'enseignement de la doctrine chrétienne, qui, selon l'expression de notre prédécesseur Benoît XIV, est l'institution utile entre toutes pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, reste partout en vigueur et où, s'il est négligé quelque part, soit restauré. Voulant donc, vénérable frère, satisfaire à ce très grave devoir du suprême apostolat et assurer partout, pour une pratique si importante, une seule et même méthode, de notre autorité suprême nous établissons et ordonnons expressément ce qui suit, pour être observé et exécuté dans tous les diocèses. Tous les curés, et en général tous ceux qui ont charge d'âme, au jour de dimanche et de fête de l'année, sans en accepter aucun, pendant une heure entière, enseigneront d'après un petit livre de catéchisme aux enfants des deux sexes ce qu'ils doivent croire et pratiquer pour faire leur salut. De plus, à des époques fixes de l'année, ils prépareront les garçons et les filles par une instruction faite plusieurs jours de suite à bien recevoir les sacrements de pénitence et de confirmation. De même, avec un soin très spécial, tous les jours du carême, et s'il en est besoin à d'autres jours encore, après les fêtes de Pâques, ils disposeront les jeunes garçons et les jeunes filles, par les leçons et les exhortations convenables, à s'approcher saintement pour la première fois de la Sainte Table. Dans toute et chaque paroisse sera établie canoniquement une association dite de la doctrine chrétienne. Par elle, les curés, surtout là où le nombre des prêtres est trop petit, trouveront pour les aider dans l'enseignement du catéchisme des laïcs qui se dévoueront à ce ministère par zèle pour la gloire de Dieu et aussi pour gagner les indulgences que les pontifes romains ont largement dispensées. Dans les villes plus considérables, dans celles surtout qui ont des universités, des lycées, des collèges, on fondera des cours de religion pour instruire dans les vérités de la foi et dans les pratiques de la vie chrétienne les jeunes gens qui fréquentent des écoles publiques où la religion ne figure pas au programme. Mais parce que, de nos temps surtout, l'âge plus avancé n'a pas moins besoin d'enseignement religieux que l'enfance, tous les curés et les autres prêtres ayant charge d'âme, sans préjudice de l'homélie ordinaire sur l'Évangile, qui doit se faire tous les jours fériés à la messe paroissiale, choisiront l'heure qui pourra attirer une assistance plus nombreuse, en dehors de celle qui est réservée à l'instruction des enfants, pour adresser aux fidèles une catéchèse en un langage facile, approprié à leur intelligence. Dans ce but, ils se serviront du catéchisme de Trente, de façon à traiter dans l'espace de 4 ou 5 ans toute la matière du symbole, des sacrements, du décalogue, de la prière et des commandements de l'Église. Voilà, vénérables frères, ce que nous établissons et ordonnons par autorité apostolique. À vous maintenant de faire en sorte que, dans vos diocèses respectifs, cela soit mis à exécution sans retard et intégralement. Vous devrez donc veiller et pourvoir, en vertu de votre autorité, à ce que nos prescriptions ne soient pas livrées à l'oubli ou, ce qui reviendrait au même, exécutées avec mollesse et nonchalance. Pour éviter ce malheur en pratique, il faudra que vous recommandiez sans cesse et avec instance aux curés de ne pas improviser leurs leçons de catéchisme, mais d'y apporter une préparation soignée, de ne point parler le langage de la sagesse humaine, mais de se conformer dans la simplicité de cœur et dans la sincérité de Dieu, 2 Corinthiens 1, à l'exemple du Christ, qui, en révélant les choses cachées depuis la création du monde, disait pourtant toutes ces choses en parabole à la foule et ne lui parlant qu'en parabole. Ainsi faisaient les apôtres instruits par le Seigneur. Voici comment parle saint Grégoire le Grand. Ils se préoccupèrent souverainement de prêcher aux peuples ignorants dans un langage clair et intelligible, non sublime et ardu. Or aujourd'hui, pour les choses de la religion, la plupart des hommes doivent être rangés parmi les ignorants. Nous ne voudrions pas cependant que, par amour de cette simplicité, on en vint à croire qu'il n'est besoin pour traiter ces matières ni de travail ni de réflexion. Elles en réclament, au contraire, plus que tout autre genre. Il est bien plus facile de trouver un orateur parlant avec abondance et éclat qu'un catéchiste faisant une instruction de tout point louable. Donc, quelque facilité de pensée et de parole qu'on ait reçue de la nature, il faut tenir pour certain qu'on ne parlera jamais de la doctrine chrétienne aux enfants et au peuple avec un fruit réel pour l'âme, sans être préparé et armé par une longue méditation. Ils se trompent, ceux qui, comptant sur l'ignorance et la lenteur d'esprit du peuple, croient pouvoir se permettre quelque négligence. Bien au contraire, plus les auditeurs qu'on a sont incultes, plus il faut employer d'application et de soins pour mettre les vérités les plus sublimes, si éloignées de l'intelligence vulgaire, à la portée des esprits simples ou grossiers, à qui elles sont aussi nécessaires qu'aux savants pour gagner le bonheur éternel. Qu'il nous soit permis à la fin de cette lettre, vénérable frère, de vous adresser la parole de Moïse. Si quelqu'un est du parti du Seigneur, qu'il se joigne à moi. Exode 32. Considérez, nous vous en prions instamment, combien d'âmes se perdent par la seule ignorance des choses divines. Vous avez peut-être établi dans vos diocèses, pour le bien de votre troupeau, nombre d'institutions utiles et dignes de tout éloge. Veillez néanmoins, de préférence à tout, avec toute l'énergie, tout le zèle, toute la persévérance que vous pourrez, employez vos soins et vos efforts à obtenir que la connaissance de la doctrine chrétienne atteigne et pénètre profondément les âmes. Que chacun, ce sont les paroles de l'apôtre Pierre que nous répétons, mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. 1 Pierre 4. Puisse votre sollicitude et vos pieuses industries, grâce à l'intercession de la bienheureuse Vierge Immaculée, être fécondée par la bénédiction apostolique. Qu'en témoignage de notre charité et comme gage des faveurs célestes, nous vous accordons très affectueusement, ainsi qu'au clergé et au peuple qui vous sont confiés. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 15 avril 1905, la deuxième année de notre pontificat, Pie X.